Alors, avant de lire le texte sur lequel portera la prédication, j'ai une petite question pour vous, à laquelle je vous invite à répondre à main levée. Qui d'entre vous a, depuis, allez, on va dire mars de l'année dernière, désobéi en âme et conscience à une loi ou un décret du gouvernement ? D'accord. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons écouter et entendre une histoire, l'histoire d'un homme qui a, lui aussi, un jour, désobéi de manière consciente et volontaire aux lois du pays dans lequel il vivait. Claire, tu veux bien venir ?
Donc je vais vous lire Daniel 6, versets 10 à 24. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, comme il le faisait avant. Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait ses prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit, sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui, et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel, d'une voix triste, et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.
Avez-vous déjà eu le sentiment de vivre dans un monde hostile à votre foi, de vous retrouver face à une société qui rejette ce en quoi vous croyez ? D'être sans cesse sommé de choisir entre les exigences du monde et un appel venu d'ailleurs. Si oui, alors le livre de Daniel est écrit pour vous. Si je devais le résumer en une phrase, ce serait une question. Comment vivre dans une société qui ne connaît pas Dieu ? Alors un peu de contexte. Daniel, c'est un jeune juif déporté à Babylone aux environs du 7e siècle avant notre ère. C'est un croyant. On ne sait pas trop d'où lui vient sa foi, je suppose de son éducation, de la tradition de ses pères. Ce qui est important, c'est qu'il se retrouve isolé, plongé dans une société qui, elle, ne connaît pas son Dieu. Il se retrouve dépositaire d'une connaissance que tout le monde ignore autour de lui. Lui seul connaît le Dieu vivant. Les autres, les hommes et les femmes de la cour du roi, eux sont soumis au conditionnement, aux structures, aux systèmes de leur civilisation. Système politique, système religieux, système économique, etc. Ils vivent pleinement dans le monde. Et tout ceci fait de Daniel un homme particulier. Ce n'est plus un citoyen comme les autres, il est un témoin de Dieu. Témoin de Dieu, c'est une condition que, je pense, vous connaissez, soit que vous-même, vous vous considérez là où vous êtes comme un témoin, soit que vous avez rencontré des gens qui se déclarent être des témoins de Dieu. Alors aujourd'hui, plutôt que de proposer une définition de ce qu'est le témoin, je vous propose plutôt de décrire son parcours à partir du récit de Daniel et de la fosse aux lions. En trois temps, nous verrons que le témoin est en rupture avec le monde dans lequel il vit, que cette rupture, allant jusqu'à un conflit à mort, amène le témoin à confronter le monde et à montrer son impuissance. Et enfin, que c'est au terme de cette confrontation qu'enfin Dieu se révèle. Il se révèle à ceux qui ne le connaissent pas. Tout commence avec un conflit légal. Ce conflit, ce n'est pas le roi qui le provoque, c'est le croyant, Daniel. Daniel qui choisit délibérément de désobéir à la loi promulguée par le roi. Rupture, transgression. Il aurait pu se plier à l'édit royal. Après tout, Dieu peut bien se passer de prière pendant 30 jours. Dieu peut bien se passer de louange pendant 30 jours, il n'en a pas besoin. Daniel n'était pas obligé de prier Dieu 3 fois par jour. Personne ne le lui imposait. Et de même, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas obligés de venir chaque dimanche dans une église. Donc, quand Daniel désobéit à la loi en priant Dieu, ce n'est pas parce qu'il se sent obligé de le faire. Tout le pousse au contraire à abandonner ses gestes de foi. Tout comme aujourd'hui, tout nous pousse à nous détourner du culte, de la louange, de la prière. Allez, une petite liste. Le distanciel, la crise de l'Église, les lois sanitaires, la peur de la maladie, le travail, les loisirs, la famille, l'emploi du temps trop chargé. On a toujours de bonnes raisons de ne pas s'approcher de Dieu. Quand Daniel prie et loue, comme à son habitude, c'est un acte libre. L'acte d'un homme qui aime son Dieu et qui, à cause de cela, va à contre-courant des habitudes de son milieu. L'amour pour Dieu, voilà ce qui fait du croyant un transgresseur potentiel, où qu'il soit. Un transgresseur, non pas pour se servir soi-même, mais pour servir son Dieu. Et, je le répète, cet acte-là est tout à fait inutile d'un point de vue humain. Un acte gratuit, libre. Celui ou celle qui aime son Dieu refuse de plier face à des lois, des modes, des habitudes qui vont à l'encontre de sa foi. Et ce qui devrait poser question aujourd'hui aux chrétiens, ce serait leur capacité à se fondre dans le monde. Comment se fait-il que moi, chrétien, je sois si bien intégré dans mon travail, dans mon école, dans ma famille ? Dans mon église, il y a un problème quelque part. Ou bien je suis fidèle à Dieu et alors je me retrouve en guerre contre le monde, Ou alors, je suis fidèle au monde et avec Dieu en guerre. On ne s'étonnera pas finalement que ce conflit entre le témoin et le monde devienne en définitive un conflit religieux. Affirmer sa foi, comme Daniel le fait, se fait toujours en opposition aux croyances des autres. Quand on regarde au fond, c'est un conflit religieux. Daniel refuse de se soumettre à la religion royale des Mèdes et des Perses, donc ça c'est les peuples de l'époque. Pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, aujourd'hui, la situation a un petit peu changé. C'est vrai qu'on n'adore plus nos présidents, nos scientifiques, encore que. N'empêche, il me semble que l'homme du XXIe siècle est tout autant religieux que le Mède ou le Perse du VIIe siècle avant Jésus-Christ. L'homme d'aujourd'hui croit en ses programmes politiques. Il se prosterne devant les miracles de la science. Un homme sur la Lune, une voiture à 300 km/h, etc. Il se voue au culte du bonheur, le bonheur à tout prix. Il se laisse posséder par ses gadgets électroniques. Il consulte l'horoscope, il est persuadé que la fin du monde est pour demain, etc. etc. Ce que je vous décris là, ce sont des attitudes très contemporaines. La foi s'oppose à tout cela. Rupture. Mais affirmer sa foi dans un monde, que ce soit le nôtre ou celui de Daniel, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est un acte qui engage le témoin tout entier dans l'aventure. Par sa désobéissance, Daniel s'attire de gros ennuis. Ayant désobéi à une loi sacrée, il est condamné à mort. Et nous arrivons là à la deuxième étape du parcours du témoin. Après s'être affirmé contre le système, Daniel en démontre l'impuissance. Le système humain, le système de ce monde, ne peut rien contre Daniel. Il ne peut ni le faire vivre, ni le faire mourir. Vous voyez, le roi tente de sauver Daniel, mais il ne peut pas. Il a les mains liées par sa loi. Inversement, les adversaires de Daniel veulent le faire mourir, ils n'y arrivent pas, les lions refusent de manger Daniel. La vie ou la mort du témoin n'appartiennent plus aux puissances de ce monde. Elles appartiennent à Dieu. Daniel n'est plus soumis au système, il est devenu ce grain de sable dans la machine qui empêche les rouages de fonctionner correctement. Et il me semble que nous avons là un très bel exemple de ce qu'est la liberté selon la Bible. L'homme ou la femme libérée, ce n'est pas un individu qui plane loin du monde, qui vit dans une cabane au fond des bois, loin de toute civilisation, ou qui fait ce qu'il veut, non. L'être humain libéré, c'est une personne qui reste dans le monde, qui fait face à toutes les contraintes de ce monde que vous connaissez, la loi, l'État, le travail, l'argent, les besoins vitaux, mais en même temps, qui domine ces contraintes. Ces contraintes ne déterminent plus le croyant, c'est le croyant qui les domine. L'être humain libéré ne se noie plus dans le flot de ce monde, il nage à contre-courant. Et cela, le monde ne peut pas le supporter. Donc, il tentera de se débarrasser du témoin. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Et c'est le point de paroxysme du conflit. Le sommet de la crise, c'est un combat à mort que le monde livre contre le témoin de Dieu. Le témoin affronte le rejet et la mort. Daniel descend dans la fosse aux lions. Est-ce qu'il savait à ce moment-là que Dieu allait le sauver ? Il avait confiance, certes, mais au fond, on n'est pas sûr qu'il avait cette certitude de remonter de la fosse. Être témoin, ce n'est pas être épargné par les épreuves. La Bible nous donne le modèle ultime du témoin de Dieu, c'est Jésus. Jésus aussi passe par l'épreuve, la plus terrible des épreuves, la mort. Jésus, témoin du Père, affronte la mort, passe par la mort. Et tous ceux qui sont appelés à être témoins de Dieu ne pourront que suivre un parcours semblable à celui de Jésus et affronter le rejet comme lui. Mais ce n'est pas encore la fin du témoignage. Il y a une dernière étape. L'épreuve n'est pas dernière. Il y a enfin le moment où Dieu se révèle. Le moment où ce Dieu caché se manifeste et devient visible même à ceux qui ne le connaissent pas. Et pour comprendre ce moment, j'aimerais qu'on s'intéresse à un autre personnage qui est le roi Darius. Le roi Darius n'a jamais appris à connaître Dieu dans son enfance, il n'a pas fait d'expérience mystique non plus qui lui permette par une révélation subite de connaître Dieu. Le seul contact qu'il a avec le Dieu vivant, c'est par le témoin, par ce jeune Daniel qui est à sa cour. Mais cela suffit pour faire naître un tout petit peu de foi chez lui. Au moment où Daniel est jeté dans la fosse, le roi dit, je cite, « Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, c'est lui qui te sauvera. » Ça ressemble presque, à une prière. Sans doute le roi n'y croit-il pas vraiment. Peut-être qu'il cherche plus à se rassurer lui-même. Lui, le roi de la nation la plus puissante de l'époque, il ne peut même pas sauver l'un de ses serviteurs. Ça l'a fait mal. Alors, qui prend Dieu comme un peu comme roue de secours. Là, bon, moi je n'ai pas réussi, mais peut-être que ce Dieu qui existe, peut-être hypothétiquement, peut-être que lui, il pourra sauver mon serviteur. Sait-on jamais, ça pourrait marcher. Attitude typique de l'homme réduit à l'impuissance. Dépassé par les événements de l'histoire, il jette une prière dans le vide. Un peu comme quand on jette une pièce dans un puits en faisant un vœu, peut-être que ça va marcher. Ne soyons pas trop durs avec ce genre d'attitude. Je crois que nous avons tous vécu ces moments où, remplis de détresse, on a jeté une prière, comme ça, vers le ciel. À qui, à quoi nous adressons-nous? On ne sait pas trop. On prie, à qui nous entendra? On prie dans l'espoir que le ciel n'est pas vide. Et nous voyons, dans cette attitude, poindre un début de foi. Darius commence à se demander si le témoin n'avait pas raison. Il commence à croire, sans y croire, que ce Dieu étranger peut sauver Daniel. Le témoignage commence tout doucement à pénétrer dans son cœur. Tout l'effort énorme du témoin pour faire connaître son Dieu, la rupture avec le monde, les sacrifices, les efforts, tout cela aboutit à cette pointe minuscule de foi chez l'homme de ce monde. Mais cela suffit. Cela suffit parce que Dieu répond à ce début de foi insignifiant, ce début de foi qui ne ressemble même pas à de la foi. Darius croyait à peine que Dieu pouvait sauver Daniel. Mais il reçoit une réponse. À cette foi ridicule, Dieu répond. Daniel remonte vivant de la fosse. Et c'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Darius, le roi, reconnaît qu'il y a un Dieu vivant. Il reconnaît que le témoin avait raison. Et c'est le moment que l'on appelle, dans le jargon, un miracle. Le miracle, c'est quand Dieu brise toutes les contraintes de ce monde, quand ce qui devait normalement arriver n'arrive pas. C'est le moment où la fatalité est brisée, où la mort est vaincue. Et le miracle de Daniel n'est en fait qu'un reflet d'un autre miracle, beaucoup plus important, la résurrection. Quand Jésus a affronté la mort, quand Jésus est descendu dans la fosse infernale, il est ressorti. Il est sorti du tombeau, vivant. Le parcours de Daniel rejoint quelque part celui de Jésus, et tous ceux qui se sentent ou qui sont appelés à être des témoins de Dieu suivent à peu près le même parcours. Par là où Jésus est passé, par là nous passerons aussi. Alors je rappelle rapidement les grandes lignes. La rupture avec ce monde, et la rupture ça peut être par des choses très simples. Ça peut être tout simplement quelques paroles échangées avec un SDF. Ça peut être au contraire des choses beaucoup plus grandes, un choix de vie, comme ces moines qui allaient vivre dans le désert, dans l'isolement, vivre une vie de contemplation et de prière. Pourquoi pas ? Rupture avec ce monde. Rupture qui entraîne nécessairement, nous n'avons pas à le rechercher, mais cela viendra à nous, un rejet violent, une épreuve. Une épreuve qui, nous le savons, ne sera pas dernière, mais seulement prélude à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est-à-dire le moment où Dieu sort de sa cachette, le moment où il se manifeste, où on peut le reconnaître, le moment où l'esprit humain devient capable de saisir ce Dieu tellement différent. C'est bien cela la finalité du témoignage. La gloire de Dieu par le moyen de sa grâce infinie. Dieu qui fait grâce à Daniel et qui part ce don de la vie se rend reconnaissable par tous. À toi, Daniel, à toi qui te réclames témoin de Dieu, à toi la responsabilité de transmettre cette grâce dans l'amour, la foi et l'espérance. Et à toi qui te considères plutôt comme un Darius, à toi qui ne connais pas Dieu, mais qui en même temps doute de son existence et de son inexistence, à toi qui ne sais pas trop, mais qui a vu le témoin, à toi l'immense question, ce Dieu inconnu, veux-tu maintenant, oui ou non, le rencontrer ?